Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez.
Mesdames, messieurs, bon appétit.
Je pense que vous savez, faut y aller.
On aura des bonnes nouvelles dans cette famille.
Je vais être franc avec vous, mais je préfère quand on fait ça chez vous.
Ah, je suis d'accord, j'aime bien ici. Mais c'est vrai qu'on l'a pas fait chez vous.
Viens, t'as qu'un marbre, qu'un manche, t'as qu'à vous chier. Mais toi,
vous perdez votre salive, mais je dois dire que vous perdez pas votre temps, moi.
Bon appétit, mes amis. Bon appétit, mes amis. Bon appétit, mes amis. Bon appétit, mes amis.
Today, I woke up numb with the same mist inside and all around. I am walking in my lovely town with these unstraightened posies. I hit some people greeting others. Today I'm still an ocean, keeping in my depth all these wavy emotions. Today everything is in its place. The clouds hide the sun and the rain is rimming on our dry and lonely skies. Today almost looks like another yesterday, but for the first time in my life I've forgotten my umbrella. I am naked under the clouds, the drops are sipping into my brain and my throat. Today I'm porous like the
Dubois.
Bonjour.
Vous êtes respectivement député de la Haute-Vienne et suppléant. Je suis bien content de vous recevoir ici sur Ici Londres, la web radio du Haut-Limousin. Et puis merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et on va parler, je vais dire, de votre métier. On peut appeler ça un métier, député.
Merci, merci de votre invitation. Député, c'est pas un métier. Enfin. Après, chacun...
En tout cas, ça occupe une bonne partie de la journée, quand même.
Chacun voit ça comme mieux, c'est une fonction.
Oui.
C'est une fonction, et je pense que la politique n'a pas vocation à devenir un métier. Donc, c'est une parenthèse dans... Je fais une parenthèse dans ma vie professionnelle pour m'investir en politique. C'est une fonction.
Je me permets une question, parce que je suis naturellement curieux. Votre vie professionnelle ?
Alors, ma vie professionnelle, elle a été assez chargée, assez mouvementée, je pense, comme beaucoup de gens de ma génération. J'ai été chercheuse en sciences sociales à l'université de Limoges. Donc j'ai mené un doctorat où je travaillais sur les politiques régionales d'aide au cinéma. Et puis j'ai eu des enfants pendant mon doctorat, j'ai eu des jumeaux, ce qui m'a
ça occupe un peu aussi.
Voilà.
c'est un double effet qui se coule.
Voilà. Et j'avais envie de rester sur mon territoire. J'avais envie de rester ici où j'avais ma famille et je trouvais que c'était un cadre de vie agréable pour mes enfants.
On n'est pas malheureux. Comment? Sur nos territoires.
On n'est pas malheureux, non. Ça, non, c'est un cadre de vie qui est agréable et qui, d'ailleurs, mérite d'être souligné. Et du coup, j'ai choisi, plutôt que de travailler dans le monde universitaire, où là, je pense que je n'avais pas de perspective sur le territoire, j'ai souhaité me réorienter, donc j'ai cherché du travail. Ce qui n'a pas été facile quand on fait un doctorat de sociologie en Haute-Vienne, trouver du travail, bon, bah, c'est assez large finalement.
Il ne faut pas traverser la rue pour trouver un travail.
C'est pas si simple, il faut le dire, il faut nuancer.
Ouais.
Donc j'ai enseigné les sciences économiques et sociales en tant que remplaçante, en tant que contractuelle, notamment au lycée, ici au lycée Jean Giraudoux à Bellac. Donc j'ai eu l'occasion, on aura je pense l'occasion d'en parler, de pratiquer la RN 147 à cette époque. Et puis je me suis réorientée, du coup j'ai suivi une formation de secrétaire de mairie
Ah oui, c'est plus qu'un virage là.
C'est un virage, disons que je suis passée dans le concret, j'étais dans la théorie à l'université, même si en sociologie on a du concret puisqu'on va sur le terrain, on mène des enquêtes de terrain.
Bien sûr.
Donc j'étais allée par exemple en région PACA, j'avais travaillé pour l'agence qui s'occupait du cinéma. J'étais à côté des studios de Plus belle la vie, donc j'ai eu l'occasion de voir du concret, j'ai eu l'occasion d'aller sur des tournages et de voir un petit peu comment ça se passait. Donc j'ai toujours aimé ça d'ailleurs, aller sur le terrain, et donc être secrétaire de mairie pour moi c'était rentrer dans le concret et le quotidien finalement,
le réel.
Des gens, voilà, d'être confronté au réel. Donc pendant 2 ans j'ai été secrétaire de mairie remplaçante, donc dans une petite commune rurale que je salue d'ailleurs à Saint-Laurent-sur-Gorre. Et avec, là, on était une petite équipe de secrétaires, donc vous faites tout, vous faites de la comptabilité, vous faites de l'urbanisme, vous vous occupez de l'état civil, et puis des petits tracas au quotidien de la population. Donc c'est assez formateur, c'est polyvalent. Et du coup, j'ai été ensuite chargée de mission sur la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, puisqu'on sait qu'on a une inquiétude assez vive sur notre territoire, sur les déserts médicaux. Donc voilà mon parcours qui est assez pluriel, on va dire.
Et comment de ça on s'investit en politique et on devient un jour député ?
Alors, j'ai toujours été intéressée par la politique. J'ai fait sociologie parce que c'était une formation qu'il y avait à Limoges. Et là, vous comprenez mon attachement au territoire. J'avais pas envie de partir, mais j'aurais souhaité plutôt faire une formation Sciences Po. C'est ce qui m'intéressait à la base, mais ça m'obligeait à partir à Bordeaux. C'était trop loin pour moi. J'ai préféré la sociologie avec un angle sociologie politique. C'est ce que j'ai fait en master, c'est ce que j'ai fait en doctorat. C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment particulièrement.
On peut expliquer en quelques phrases l'angle justement politique.
L'angle politique, c'est que j'ai travaillé sur les institutions, je travaillais sur les politiques publiques et sur l'action publique. Comment une collectivité, par exemple, va se tourner vers tel type de politique, en l'occurrence plutôt les politiques culturelles, c'est ce qui m'intéressait. Et j'étais en parallèle présidente d'une association qui organisait un festival de courts-métrages à Limoges. Donc j'avais vraiment cet angle plus culturel.
Ouais.
Et puis j'étais confrontée aux décideurs politiques, puisque dans le cadre de mon association, j'allais aussi présenter mon projet associatif et puis discuter de subventions éventuelles. Donc j'ai toujours été finalement confrontée à ça, même si je ne suis pas née dedans. Donc c'était un angle qui m'intéressait vraiment, la politique, et j'ai été candidate aux élections municipales à Limoges en 2014 sur la liste du candidat sortant Alain Rodet, en position non éligible. Ça m'a permis vraiment de voir comment se passait une campagne électorale.
C'était une bonne expérience ?
C'était une expérience, oui, j'étais assez jeune pour la vivre.
Quel que soit le résultat, ça... C'est...
Non, le résultat était dur à vivre,
C'est une aventure.
Il faut savoir perdre. Même si je n'avais pas d'enjeu à titre personnel, mm-hmm. J'étais pas en position éligible, mais c'est important aussi d'apprendre de ses défaites. Ouais.
Et comment on devient un suppléant d'une députée de la Haute-Vienne,
Ludovic ? C'est une bonne question. J'aurais dit presque par hasard, puisque j'avais pas cette vocation à être suppléant. Moi, je me suis toujours battu sur mon petit territoire, qui était le nord du département et plus particulièrement de la commune de Saint-Sornin-le-Lac, parce qu'à l'époque, j'étais le maire de la commune. Mmh. Et en même temps, toujours dans l'esprit de construire quelque chose sur le territoire, je dirige toujours actuellement un établissement qui est dans le secteur du médico-social, donc pas du tout dans le secteur de la vie politique, qui est un accompagnement qui a pour vocation à accompagner les personnes en situation d'handicap, les personnes adultes, handicaps mentaux. Donc voilà, c'était pas une vocation, c'était pas un souhait au départ, mais l'élan En Marche à l'époque voulait fédérer autour de lui plein de bonne volonté, plein d'ondes positives, et donc j'ai été sollicité, et puis c'était quelque chose qui commençait à fourmiller dans ma petite tête. Donc très vite, ça s'est fait, on s'est rencontrés avec Marie-Ange, une belle journée à la mairie de Saint-Sornin-le-Lac, ça s'est... Il y a eu tout de suite des atomes crochus, puis on a essayé de faire un binôme, et on est parti en campagne, et puis très très vite, hein, puisque ça s'est fait...
Et puis feu.
Et nous voilà ici, quoi. Tout ça pour arriver ici.
On ne se connaissait pas avant la politique.
C'était un binôme qui ne devait pas forcément se faire, c'est la politique qui nous a réunis, on va dire. Et c'est une belle histoire personnelle, en tous les cas, par rapport à ça.
C'est quoi être député aujourd'hui en termes de faire le lien entre la population et le territoire et puis les hautes instances à Paris? C'est compliqué. Est-ce qu'on est libre quand on est député?
Je pense qu'on est assez libre, oui. Ouais. Je pense que chaque député a sa définition de sa fonction et de son rôle à jouer. Ça peut être un rôle plus national ou un rôle plus local. Ça dépend vraiment de la vision que l'élu a de sa fonction. Moi, j'essaie d'être à la fois sur le territoire et à la fois à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'on n'a rien à dire à l'Assemblée nationale si on n'est pas sur le territoire.
Donc, il faut qu'il y ait un équilibre, en fait.
Voilà, il faut être sur le terrain.
Pour présenter mieux son territoire.
Pour déjà expliquer la politique qui est menée au niveau national.
Oui, dans un sens et dans l'autre.
Et puis quand on est au niveau national, il faut aussi expliquer le ressenti de la population et puis des cas très précis, des cas concrets qu'on peut voir et qu'on nous fait. C'est à nous de le faire remonter.
C'est presque une mission de traduction dans un sens puis dans l'autre.
Oui, c'est une courroie de transmission. Ouais. C'est un facilitateur. Le député, il est là pour apaiser aussi les tensions. On a quand même une société qui est assez clivée. On est là vraiment pour faire le lien entre les élus aussi, entre les élus locaux, entre certaines situations qui sont complexes et des ministères qui peuvent intervenir, qui n'ont pas forcément connaissance de cette situation. C'est à nous de démêler finalement des situations qui sont à la base assez complexes, oui.
Et je me suis permis d'aller voir votre page et j'ai vu plein de thèmes qui ont nourri mes prochaines questions. J'ai vu aussi que vous avez ouvert une permanence à Bellac. On peut en parler en quelques...
Quasiment voisin.
Ouais. Oui,
voisin. Oui.
Quand j'amène un de mes fils à l'école, je passe devant tous les matins maintenant.
Oui, j'ai eu cette idée... Alors déjà, on m'a assez reproché d'avoir une permanence à Limoges et pas à Bellac. C'est vrai qu'à Limoges, on a toutes les institutions, on a la préfecture, on a quand même beaucoup d'institutions. Et il faut savoir que ma circonscription va jusqu'au nord de Limoges.
D'accord,
donc
oui.
C'est quand même une partie non négligeable de ma circonscription.
Justement, on peut parler de géographie oui. Deux secondes.
Alors, moi, j'ai...
Votre territoire, c'est...
Alors, mon territoire, il est assez vaste. J'ai le nord de Limoges. Quartier Pularoda, par exemple, Val-de-Laurance, et puis après les communes voisines, Ille, Couzex, Chaptelat, je monte jusqu'à Périllac, puis après le long de l'Avin, Saint-Sulpice-Laurière, je remonte jusqu'à Cromac, et puis après j'ai tout le secteur de Bellac. Donc je remonte
jusqu'à la frontière avec le 8-6.
J'ai la 147 en long, en large, en travers, et la 145. Pour vous situer. Donc effectivement, j'ai d'ailleurs beaucoup de sujets sur la mobilité.
J'imagine bien. J'imagine bien. C'est aussi un sujet clé, je crois, pour les années à venir.
Oui,
la mobilité.
C'est un sujet qui traîne, on va dire, depuis. depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles.
Alors, si on parle de la 147, ça traîne depuis perpète, en tout cas.
Oui. Bah, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on va avoir quelqu'un qui va avoir une nouvelle bonne idée. Donc du coup, ça ralentit les processus qui étaient engagés. C'est un petit peu le problème qu'on peut avoir sur ce secteur-là. Ça n'empêche pas que tous les élus nationaux et locaux sont mobilisés pour un...
Je crois qu'on peut le conjuguer, ce dont vous venez de parler, on peut le conjuguer sur à peu près tous les sujets. Moi, je suis 2 fois marié à l'éducation nationale. Je sais que tous les 5 ans, il y a une bonne idée aussi. Chacun y va de sa réforme et c'est compliqué pour assurer un suivi, en fait. Donc, je me permets.
Tant que les réformes amènent du mieux, oui. Le problème dans certaines bonnes idées, c'est que ça freine les autres qui étaient déjà lancées. C'est-à-dire qu'on stoppe les machines, on arrête tout. Et on réétudie, on relance des études. C'est ça qui est problématique dans ce type de projet. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que ce qui avait été prévu soit bien lancé.
Et quid de la mobilité sur nos territoires ?
On a un territoire qui est enclavé. Il faut se le dire. Je pense que la solution ferroviaire est une solution intéressante aujourd'hui. Je pense que ça correspond aussi aux attentes de la population. C'est un travail à mener de concert avec le conseil régional qui, pour le coup, a la compétence des TER.
À condition qu'il ne remplace pas les trains par des bus.
Tout à fait.
Ouais. Parce que c'est vrai que quand il s'agit de train, ça marche vraiment super bien. Moi, j'ai pris le train pendant 3 ans, tous les jours, matin et soir, pour aller à Montbrillon, justement, dans la Vienne. Et sincèrement, sur une année, c'est 2-3 plantages. Donc plus de 9 fois sur 10, ça fonctionne super bien et c'est un outil formidable, le train. Moi, c'était une découverte en même temps. C'est la première fois que j'allais bosser en train et c'est vrai que c'est...
Quand les horaires sont adaptés, ouais. Et quand c'est facile d'accès, que la gare est facile d'accès aussi à proximité de votre travail, c'est vrai que ça change, ça change tout.
Exactement. Et c'est un plaisir même. Le plaisir la notion du temps, tout ça. Enfin, voilà, le repos, le cas échéant, parce que c'est vrai qu'en voiture, c'est pas le cas. On ne lit pas en voiture, hein, et Dieu merci. Et
Il y a des qui ont essayé.
Et la 147, justement, on en parle. Moi, je suis arrivé sur le territoire il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est l'Arlésienne, un peu. C'est-à-dire, on en parle depuis perpète, je disais tout à l'heure. Et je me suis permis d'écrire une petite brève dans un journal local qui s'appelle Méfiaté il y a presque un an, où je disais on aura peut-être l'hyperloop avant la voie rapide.
Oui, c'est... C'est possible. Non, pour être plus sérieux, même si je soutiens le projet d'Hyperloop.
Oui, non, mais c'est...
Je pense que c'est un projet d'avenir à suivre de près et je suis ravie que ça se développe sur notre territoire. Sur la 147, je pense honnêtement qu'il y a une unanimité des élus et même du ministère des Transports sur le fait qu'il y a une nécessité d'aménager cette route en 2x2 voies. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on l'aménage en 2x2 voies gratuite ou est-ce qu'on en fait une autoroute concédée avec des péages ? Mmh. Auquel cas, on a un sujet d'acceptabilité de la population. Est-ce que la population empruntera cette autoroute ? On a vu dans les études qui ont pu nous être transmises que l'ARN 147 aujourd'hui est utilisé par les autochtones, par les Bélachons et par les Limougeaux pour des trajets pendulaires, domicile-travail, entre Limoges et Bélac. La question c'est, est-ce que cette population va accepter de prendre une autoroute payante ou est-ce qu'ils vont continuer d'utiliser l'ARN 147 ? Moi, je suis mitigée, on va dire, sur le fait qu'on construise une autoroute qui ne bénéficie pas à la population locale.
Si c'est payant, les gens vont peut-être continuer à prendre la route gratuite.
Exactement. Et c'est un sujet parce qu'il y a des subventions publiques qui seront octroyées à ce projet d'autoroute s'il se fait. Donc les collectivités et les impôts financeraient une partie de cette autoroute et en même temps il faudrait s'acquitter d'un péage. Donc
c'est une double peine un peu.
Il y aura un débat public.
Oui.
Il y aura un débat public qui a été annoncé et qui donnera la parole aux citoyens. Ce sera à eux de s'exprimer aussi sur ce sujet. Mon inquiétude, c'est qu'effectivement, ce que vous dites, on perd du temps.
Au-delà de l'aspect financement et ce débat public dont on vient de parler, est-ce que c'est la clé d'un désenclavement ?
C'est une bonne question. Pas totalement. Pas totalement. Je pense qu'on a d'autres sujets d'enclavement sur le territoire. On a une route nationale 145 aussi qui est accidentogène. Je dirais pas qu'on est enclavé à Saint-Saëns dans le lac. Je laisserai en parler. Mais je pense qu'on a aussi à travailler sur la ligne POLT et c'est ce qu'on fait. On a voté au Parlement plusieurs milliards alloués sur ce réseau-là pour nous rapprocher aussi de Paris et avoir des trajets qui soient plus agréables et qui soient dans des temps de trajet plus acceptables. Donc en fait, c'est un tout. Je vous dirais, on a des travaux qui sont en cours, qui sont lancés sur la ligne POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. On a des discussions qui sont en cours, vous allez me dire, depuis des années, mais ça devient quand même plus concret sur la RN 147. Et puis en même temps, on prépare l'avenir avec l'Hyperloop et de la recherche et développement à Drou.
On y vient. On ira peut-être donc plus vite. Plus vite, ça c'est sûr, mais dans le temps, en tout cas, on aura peut-être l'Hyperloop avant la 147. Oui. En tout cas, si on n'arrive pas à ce que ça se décoince... Moi, comme je disais, je suis arrivé il y a une dizaine d'années, j'ai entendu un peu tout et son contraire sur le contexte historique depuis une cinquantaine d'années. Pourquoi ça n'a pas été, alors que par exemple à Saint-Junien s'est développé d'une façon qui peut être intéressante sur l'axe Limoges-Angoulême, et nous on est toujours là avec nos virages et nos camions, quoi.
C'est vrai qu'on a une route qui est sinueuse. On a un secteur qui est vallonné, donc c'est vrai que c'est pas évident de dédoubler ce type de route, donc c'est pour ça que ça pose question aussi. Et puis on va se le dire aussi, on a un problème pour fédérer tout le monde sur un même projet. Vous voyez bien qu'il y a deux projets actuellement, chacun a son avis et les avis ne sont pas les mêmes.
Et qu'elle soit une autoroute gratuite ou payante, tout le monde n'aura pas sa sortie en bas de chez soi, quoi.
J'ai souhaité, moi, qu'il y ait des sorties quand même régulières sur le territoire, sinon ça sert à rien. Ouais. Donc on est par exemple
s'il faut faire 15 bornes pour revenir.
C'est exactement ça. Donc non, on aura des sorties, on nous dit 8 sorties entre Limoges et Poitiers, donc c'est quand même une irrigation assez intéressant du territoire. Le vrai sujet, c'est vraiment le financement, le coût et le coût pour l'usager et donc pour mes concitoyens.
Je vous sais, vous l'avez dit dans votre parcours, mais je vous sais attaché à tout ce qui est culture et agriculture sur le territoire. J'ai vu quelques photos, je vous ai vu sur un label de jazz, en photo chez un label de jazz à Limoges, que je diffuse d'ailleurs, quelques titres qui sont diffusés dans ma playlist, comme Anne Passeo par exemple, que j'adore et qui est sur ce label. Cet attachement à la culture, vous le disiez, par rapport à une expérience autour de l'audiovisuel, la production discographique dont on vient de parler deux secondes, là, il est depuis toujours ?
Ouais, j'ai toujours été passionnée par l'audiovisuel, par le cinéma. C'est un endroit où je me sens bien. Fermé aujourd'hui, malheureusement. Mais j'avoue que j'ai toujours eu cette passion-là. Et j'ai la chance, je pense, sur le territoire, d'avoir été bien servie. On a des acteurs culturels ici qui sont fortement mobilisés, qui sont particulièrement talentueux. Et c'est quelque chose, en tant que députée, que j'ai à cœur de faire connaître et d'accompagner. Je suis à leur côté et avec beaucoup de plaisir. On a des projets qui veulent s'installer ici en Haute-Vienne, à nous de les accueillir et puis à nous, députés, de faciliter leur arrivée et de faire le lien avec toutes les institutions, que ce soit la région, le département, les collectivités, les intercommunalités, les communes, pour qu'ils soient bien accueillis et que leurs projets puissent se développer.
Vous avez dit le mot cinéma, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Nous, sur notre territoire, je pense à la Comcom, hein, on a deux cinémas associatifs, le Bellac et le Dora. C'est vrai que c'est compliqué, on se rend quand même aussi compte que les gens ont changé de mode de consommation avec les plateformes. Le retour à la normale, si un jour on revient à la normale, ça va être un peu compliqué, effectivement, en termes d'usage ou de consommation du cinéma.
Ouais, les usages évoluent. Peut-être ici moins, parce que la couverture numérique est en cours de développement. Oui. Donc je pense de toute façon qu'il y a, dans le cinéma, il y a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve pas sur les plateformes. C'est un lieu particulier. Et donc, je pense que les Français y sont attachés. On a vu lors du déconfinement que les Français sont globalement retournés dans les salles de cinéma. Donc, j'ai pas nécessairement d'inquiétude.
Le plaisir n'est pas le même, hein, on est bien d'accord.
Voilà, j'ai pas forcément d'inquiétude. Je pense que les Français retourneront dans les salles de cinéma. Ceci étant dit, oui, il y a quand même de nouveaux usages et il faut les prendre en compte. Il va falloir aussi s'adapter à ce virus. Aujourd'hui, tout est sur la table. Je pense qu'il va falloir rouvrir les salles de cinéma assez rapidement, quitte à avoir une approche territorialisée. Rosine Bachot le disait, je crois que c'était hier, tout est sur la table, mais il va falloir effectivement accompagner le secteur qui aujourd'hui est en souffrance.
Oui, parce qu'énormément de projets sont en stand-by.
Alors, on a des tournages, les tournages continuent tout de même, mais effectivement, il va y avoir un encombrement dans les salles, puisque ouais. Voilà,
tout ce qui devait sortir.
Voilà, les montages peuvent avoir lieu, tout ce qui est post-production peut continuer. En revanche, oui, il va y avoir un embouteillage dans les sorties en salle.
Ouais, après, il y a effectivement une adaptation aussi, il y a des sorties qui ne se feront plus en salle et qui vont se faire sur certaines plateformes.
Ouais. J'oserais vous dire que je pense qu'aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, on a besoin de divertissement. On a besoin de voir autre chose et on a besoin d'aller au cinéma, on a besoin de regarder la télévision. On a vu d'ailleurs que c'est un média qui a explosé pendant le confinement. Tout le monde était devant sa télévision.
Bah, il y avait un peu que ça, entre guillemets. Non, j'exagère évidemment.
Vous pouvez faire son jardin aussi.
Oui.
Les web radios à écouter. Hein,
bah oui, la preuve. En même temps, on était un peu confinés à la maison et tout le monde n'a effectivement pas un jardin. Nos premières pensées ici avec ma collègue Céline, quand le confinement a démarré, c'est justement les gens qui vivent en appartement, qui n'ont pas accès, à ce moment-là, n'avaient pas accès justement à un petit bout de verdure, et parfois en famille, c'était effectivement très très compliqué à vivre, quoi.
Ça me permet de revenir à votre question.
Ah oui, parce qu'on a parlé de culture et.
C'est ça, sur la permanence à Bellac. D'où est venu ce... Cette volonté, finalement, elle est venue du confinement, où je me suis retrouvée, comme tout le monde, confinée, avec un sentiment d'une certaine culpabilité, finalement, où j'appelais régulièrement mon suppléant, qui lui était à Bellac, en lui demandant qu'est-ce qui s'y passait, parce que moi, je me retrouvais à Limoges, où j'habite, et j'avais besoin de retour, j'avais besoin d'être présente. Et du coup, instinctivement, c'est comme ça que ça m'est venu d'installer ma permanence à Bellac pour vraiment être aux côtés de mes concitoyens dans ces temps difficiles. C'est comme ça que ça m'est venu et ça m'est venu d'instinct. J'ai appelé Ludovic en me disant « Voilà, j'ai cette idée, tu en penses quoi ?»
Et c'est là que moi je vous ai invité, que j'ai pris contact avec vos services pour vous inviter ici même. Tout ce qu'on a dit finalement sur la culture, on peut le conjuguer de la même façon sur l'agriculture ? Accueillir des structures
Je pense que nos agriculteurs...
Et soutenir des énergies en place. Hein.
Oui, bien sûr. Bah, vous faites référence à l'interview de Nicolas Fay qui a plein d'idées.
Ils ont plein de projets.
Fourmis de projets sur le territoire. Et je suis bien sûr à leur disposition. Je suis là, je le vois vraiment... comme une solution pour faciliter les projets et faire en sorte que tout se passe bien, c'est ce que je leur dis quand je les vois. Je pense que le confinement a permis aussi d'ouvrir les yeux sur nos modes de consommation.
Oui.
On a développé les circuits courts. Après, je pense que l'enjeu pour les agriculteurs et pour les élus, pour les politiques, c'est aussi de faire en sorte que ça se pérennise, que ça s'installe dans la durée. Parce qu'on a eu une réponse à nos difficultés pendant le confinement avec le développement des circuits courts où s'alimenter finalement chez le producteur, chez nos agriculteurs qui sont juste à côté, passer devant sans vraiment regarder.
Oui.
Maintenant, il faut faire en sorte de s'installer dans la durée.
De conscience,
c'est ça, et de ne pas reprendre nos anciennes habitudes. Et finalement, je pense que c'est ça l'enjeu de demain.
En parlant de demain, les petites villes de demain, moi j'ai beaucoup aimé l'infographie que j'ai retrouvée sur, sur votre page Facebook, et j'ai trouvé que ça correspondait bien effectivement aux différents, différentes communes du territoire ici aussi avec, avec la présence du tiers-lieu, où nous sommes en ce moment même. C'est quoi ce projet de petites villes de demain ?
En fait, c'est un accompagnement de l'État. C'est un accompagnement de l'État pour toutes les communes qui souhaitent développer des projets, que ce soit des projets de Maison France Service ou des projets de tiers-lieux, par exemple. On sait qu'on a des communes qui ont des besoins financiers, des besoins d'accompagnement financier ou bien des besoins d'accompagnement en termes d'ingénierie pour développer des projets. On a aussi besoin, par exemple, d'être mis en relation avec d'autres partenaires. Donc, les projets Petites Villes de Demain, c'est tout ça. C'est un ensemble, finalement, de choses où l'État est facilitateur, aide financièrement quand il y a besoin. On a des communes qui ont ce type de besoin, ou aide à rencontrer d'autres types d'acteurs, aide à développer des projets. Donc, c'est assez global.
Est-ce que ça ne sera pas de la délégation de services publics maquillée ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas obligatoirement négatif ce que je suis en train de dire, mais quelque part, des fois, l'État se désengage et puis on se réengage via des structures associatives.
Je pense pas que l'État se désengage. Je pense qu'au contraire, l'État est plus présent qu'avant sur les territoires. On voit dans les maisons France Service, on a quand même l'État qui vient au plus près de nos concitoyens. Et c'est la volonté du président de la République, c'est la volonté des parlementaires de la majorité. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord. Après, notre objectif aussi, c'est de faciliter toutes les personnalités qui ont des idées. Vous êtes une association et vous avez un projet d'implantation sur un territoire. Le rôle de l'État, c'est de vous aider. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc on n'est pas là, nous, pour dire bah non, c'est l'État qui va faire et puis ce n'est pas les associations, ce n'est pas les communes. Non, chacun a des projets à mener et nous, on est là pour les accompagner.
C'est passionnant d'être député ?
Oui, c'est intéressant. C'est déjà une fierté de représenter la Haute-Vienne à l'Assemblée nationale. Je tiens à le dire, c'était pas quelque chose que j'avais projeté dans ma vie. Et c'est vraiment une fierté, en plus en tant que femme jeune, de présenter ce visage-là de la Haute-Vienne à l'Assemblée. C'est quelque chose qui fait ma fierté. Après, sur le quotidien, oui, c'est des rencontres et c'est forcément passionnant. Moi, ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est toutes ces rencontres qu'on peut avoir au quotidien, tous ces projets qu'on peut accompagner. Mmh. On a un rôle qui n'est pas un rôle vraiment mis en valeur, il faut le dire. Notre rôle principal, c'est d'être législateur. Mais notre rôle quotidien, c'est vraiment d'accompagner et parfois d'avoir un rôle clé dans la réussite d'un projet.
On crée du lien entre
les acteurs parce qu'on les rencontre, on les connaît. Donc on a connaissance de tel projet.
C'est un rôle souterrain, ça.
C'est un rôle effectivement qui n'est pas mis en valeur. C'est pas non plus ce qu'on demande. Mais je pense que c'est ce quotidien-là qui m'intéresse et qui me passionne.
Qui rend la chose passionnante, oui, effectivement. Et c'est plein de bonnes surprises, j'imagine, parce que j'imagine vous avez peut-être parfois redécouvert le territoire.
Ouais. J'ai découvert des lieux.
Plein de choses qu'on n'imaginait pas.
J'ai découvert des lieux, oui, que je ne connaissais pas et je continue d'en découvrir. Ce tiers-lieu, par exemple, aujourd'hui, où on se regarde avec des grands yeux avec Ludovic, oui, on découvre, on prend plaisir à découvrir. Et puis après, on est à disposition aussi pour aider à développer d'autres projets.
Il y a vraiment des belles choses sur notre territoire et ça, on oublie de le dire. On a tendance à se victimiser en disant voilà, il y a des manques, ceci, cela. C'est ce qui est vrai. Je n'ai pas dit qu'il fallait se contenter que de ce qu'on a, mais il y a vraiment des belles choses. Il y a des projets qui s'affourmillent dans toute commune, dans toute association, que ce soit sur le territoire urbain de Limoges, mais aussi sur le nord du département. Chez nous, ici, il y a des choses qui se passent.
Il y a plein de choses à faire, oui, effectivement.
Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui se font.
Oui, déjà, oui, tout à fait.
Il faut le voir, le présent et le futur.
En tout cas, il ne faut pas noircir le tableau, c'est sûr.
En fait, je trouve que dans le nord de la Haute-Vienne, on a une identité très forte.
Il y a des savoir-faire, quels que ce soit les secteurs, culture, agriculture, industriel, économique, etc. Il y a vraiment de belles choses qui se passent et ça, il faut les mettre en valeur pour dire qu'on n'est pas dans un désert, quoi. Très loin de là, très loin de là.
Je défends tout à fait cette vision parce que je trouve qu'on y est vraiment très heureux sur notre territoire.
On a tendance à pas le dire suffisamment.
Voilà, c'est fait. En tout cas, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez.
Merci à vous.
Et puis, plein de bonnes choses pour la suite.
Merci.
Et puis, meilleurs vœux au passage.
Meilleurs vœux à tous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Was only paid to be in Wasserho Ostein. Das du mir auf bei Kielmanns bei. Stoß hat der auch hing, wo alle Liebesleute. Da war so mange som die Röde Wei in meine Eine. Så da sigøjner tag min hånd. Spå mig en fremtid så frodig har jeg og grøn. Så da sigøjner syng den sang. Og blink gule og den varme hele natten lang. Nu skinner solen på din himmel så blå. Ah, jeg tænker du så på hvad det er vi skal nu. For drømmen er i morgen og i går. Åh nej, det er ikke der det foregår. Så da sigøjner tag min hånd. Få mig en fremtid så frodig, ja og grøn. Så er det sigøjner, hun syng den sang. Og tænk den jule, og den varme hylde natten lang. Oh,
content que le voisin ne nous avait pas cassé les oreilles.
Eh ben, allez lui dire de faire.
Pourquoi? C'est amusant cette musique.
C'est Léonie qui ne veut pas.
La TSF? J'adore.
Au revoir.